Chapitre 25. Juste après le couchant, Outros balayait du regard son immense camp. Partout, les hommes avaient allumé des feux, pas pour se réchauffer ou cuisiner, mais parce que ça faisait partie de leur routine depuis des temps immémoriaux. Pour une armée de cette taille, les feux de camp étaient aussi un symbole de camaraderie. En plus des autres séquelles du sort de pétrification, le général et ses hommes souffraient d'une vision nocturne très détériorée. Ainsi, Outros distinguait la lueur des flammes, mais les ténèbres tout autour lui paraissaient bien plus denses qu'avant. Depuis le réveil, alors que la vérité se répandait dans les rangs, une lame de désespoir avait déferlé sur le camp. Quoi ? 15 siècles s'étaient écoulés, et l'empire de Crocs de Fer n'était plus qu'un lointain souvenir ? Dès qu'il en avait le temps, Outros sillonnait le camp pour assurer ses hommes. Si le monde qu'ils avaient connu n'existait plus, il restait toujours membre de son armée.
« Avec moi, vous êtes auprès de votre vraie famille. Ne l'oubliez pas, et sachez que je vous guiderai jusqu'à la victoire. »
Avec son casque orné des cornes du monstrueux taureau, Outros rayonnait de puissance. Pourtant, il sentait la détresse et la mélancolie de ses hommes. S'il les comprenait, il ne pouvait rien faire pour eux, car il avait également tout perdu. Majel. Approchant d'un groupe d'hommes à l'air abattu qui trouvait pourtant encore la force de monter la garde, le général leur parla avec son cœur.
« Le temps nous a volé nos familles, nos amis, nos amours et nos vies. Hélas, tout ce que nous avons perdu, je ne pourrai jamais vous le rendre. »
Hésitant, il reprit.
« Non, le temps n'y est pour rien. » Les voleurs, ce sont les sorciers d'Ildakar, avec leurs maudits sortilèges.
Outros leva un bras encore raide et anormalement dur.
C'est eux qu'il faut blâmer.
Attirés par la voix de leur chef, de plus en plus de soldats faisaient cercle autour de lui. Dans leurs yeux, Outros lut un désespoir d'autant plus poignant qu'ils étaient incapables de verser une larme, les ravages toujours du sort de pétrification. Rattrapés par la réalité, les soldats n'avaient plus rien à quoi se raccrocher, n'était leur devoir et la loyauté due à leur chef.
« Je ne vous rendrai pas le passé, mes enfants, ni les êtres chers que le temps a engloutis. Mais je peux réveiller en vous l'espoir et stimuler votre sens du devoir. Tout ce qu'il nous reste, c'est la volonté de conquérir Ildakar, comme nous avons juré de le faire en quittant Orogang il y a 15 siècles, et cette mission, nous la remplirons !»
Les premiers jours, après un discours de ce genre, les applaudissements et les vivats étaient timides, mais les soldats peu à peu avaient pris conscience de leur situation inédite et de ce qu'elle impliquait. Plus tard ce soir-là, des hommes se réunirent autour des feux de camp pour évoquer leurs familles et leurs amis disparus depuis des lustres. Sans jamais oublier leurs compagnes, leurs enfants et leurs foyers perdus, ces guerriers iraient jusqu'au bout de leur devoir. Pour Outros, et uniquement pour lui. Le choc passé, ces hommes avaient regardé la réalité en face. Mais qu'auraient-ils pu faire d'autre? Depuis toujours, ils suivaient Outros qui ne les avait jamais laissés tomber. Convaincu par sa façon de voir les choses, ils continueraient à le servir. Génial! Sauf que le général n'avait pas l'ombre d'un plan. Le même soir, Enoch vint rendre son rapport sur les patrouilles envoyées faire le tour du mur d'enceinte, sonder les collines et étudier la falaise qui surplombait le fleuve. Rien de tout ça ne semblait très concluant.
« À partir de la plaine, il est théoriquement possible d'atteindre le fleuve, mais pour ça il faut traverser des marécages qui paraissent impraticables. Et même si on réussit à passer, il faudra que nos hommes escaladent la falaise pour entrer en ville. » « Général, ce n'est pas le bon plan. Ce côté-là de la cité est également défendu et nous n'avons pas de bateau. La meilleure option, c'est d'attaquer par la plaine. Les défenseurs ne nous repousseront pas éternellement. »« Oui, oui. Je vais continuer à peaufiner un plan. En attendant, glane autant d'informations que possible, nous trouverons un moyen. »
Enoch salua et se retira. Malgré son assurance de façade, Outros savait que le temps jouait contre lui. Bientôt, les doutes de ses hommes commenceraient à miner son autorité, un processus logique quand un chef se révélait incapable de répondre à des questions légitimes. Les ordres de Croc de Fer dataient de 1500 ans, et l'empereur, détesté pour sa cruauté, avait fini par être renversé. Dans un lointain passé, Outros avait juré fidélité à Kourgan. Mais il avait aussi aimé Majel, et ce sentiment-là était plus fort que lui. En compartimentant son esprit, il avait réussi à concilier deux loyautés contradictoires, mais cet exercice exigeait un contrôle de soi de tous les instants. En d'autres termes, il y avait laissé beaucoup de sa légendaire énergie. Alors qu'il contemplait de nouveau les feux de camp, Outros sentit un frisson glacé courir le long de son échine. Kourgan et Majel n'étaient plus de ce monde. Croc de Fer ne pourrait plus jamais lui prodiguer des conseils ou lui donner des ordres, et la voix de sa bien-aimée ne retentirait plus à ses oreilles. Prisonnier du gardien, l'empereur et son épouse ne lui seraient d'aucun secours. À son époque, des rumeurs couraient sur d'éventuelles brèches dans le voile, permettant au spectre de revenir dans le monde des vivants. Mais selon Nietzsche, le changement stellaire de Richard Rall avait mis un terme à tout ça. La magicienne et son compagnon étaient-ils fiables? Si oui, aucun esprit ne reviendrait plus du royaume des morts. Sans chef ni femme aimée, le général était livré à lui-même. Seul, malgré la présence d'une multitude de soldats et de deux magiciennes qui se dévouaient à lui corps et âme. Campé sur le seuil de son fief, Outreau se retourna. À la lueur des deux braséros, Ava et Rouva l'attendaient, leurs robes moulantes mettant en valeur des courbes splendides. Épilées de frêles, à peau peinte, elles observaient en silence leur maître concentré comme si elles pouvaient lire ses pensées. « Outros, chéri, » dit Ava, « nous n'avons pas oublié la magie apprise au fil des ans. Oui, tous ces grimoires volés dans des villes conquises, » précisa Rouva. Outros entra, poussa la porte et alla fermer les volets.
« Je n'ai jamais eu de doute à ce sujet, mais si les émissaires d'Ildakar ont dit vrai, les fondamentaux de la magie ont changé. Vos sorts les plus puissants risquent de faire long feu. »
Du bout d'un index, Ava caressa la joue de sa sœur. « Ou de donner un résultat inattendu ?» Fermant les yeux, Rouva gémit d'aise. « Ce qui nous ouvre des horizons nouveaux. La magie peut nous offrir des possibilités inédites. » Outros passa la main sur sa joue barrée d'une cicatrice.
« Par exemple, en nous permettant de réduire en poussière la muraille d'Ildakar, histoire d'y entrer plus aisément. »
Une éventualité à creuser, souffla Rouva. Tendant un bras, elle rendit sa caresse à Ava. Mais ce n'est pas ce que tu désires le plus, Outros, chérie.
Nous savons ce que tu veux et qui te rendrait un cœur d'acier.
Un cœur d'acier qui galvaniserait ton armée, ajouta Rouva.
Que voulez-vous dire?
« Tu sais très exactement ce qui est arrivé à Majel, la femme à qui tu as donné ton âme et ton cœur. » Ava marqua une courte pause. « En même temps, tu avais juré fidélité à l'empereur, un conflit déchirant, Outros chérie. »«
Et qui te ronge ?» ajouta Rouva. « Pour accepter ta place dans cette époque, tu as besoin de parler à Croc de Fer et à Majel. »
Le cœur d'Outros se serra.
« Je sais, mais ils sont morts depuis longtemps. La seule façon de les contacter, c'est d'aller dans le royaume du gardien, mais je ne vois pas l'intérêt puisque c'est un voyage sans retour. »«
Sauf s'il y a un autre moyen, » dirent en cœur les jumelles. Rouva avança, la lueur des braséros ajoutant des ombres mobiles aux motifs qui couvraient sa peau.
« Nous avons travaillé sur les assertions de Nietzsche. » Lancer des sondes magiques, si tu veux, et sacrifier de petits animaux pour répondre à certaines questions. »
Ava prit le relais. Le royaume des morts est bel et bien scellé. Plus de brèches ni de points faibles dans le voile. Tu ne peux pas traverser, nous n'avons aucun moyen de ramener Croc de Fer ou Majel. Avançant désormais ensemble, les jumelles approchèrent du général, sans le toucher, mais assez près pour qu'ils sentent leur présence.
« Cela dit, il reste possible de regarder à travers le voile. Tu peux le faire et réussir à trouver ces deux esprits. »
Pour communiquer seulement, sans chercher à les ramener? Je n'y ai pas pensé. Ce serait formidable.
En unissant nos efforts, dit Ava, nous ouvrirons une fenêtre qui te permettra de voir de l'autre côté du voile. Face au spectre de Kourgan et de Majel, tu pourras dialoguer avec eux.
Parler à Majel, souffla Outros. Je lui dirai.
Ils se ressaisirent, devenant militaires jusqu'au bout des ongles.
Après des siècles, je ferai mon rapport à Kourgan et il me donnera de nouveaux ordres.
Pour la première fois depuis son réveil, Outros se sentit redevenir l'homme qu'il était jadis.
Oui, mettez-vous au travail. C'est un ordre.
Les préparatifs seront ardus, dit Ava. Pour créer une telle fenêtre, il faut un verre très spécial, d'autant plus qu'il s'agit en même temps d'une espèce de lentille. Un verre fait avec des composants spéciaux difficiles à trouver, précisa Rouva.
Ne vous en faites pas, vous aurez tout ce qu'il vous faudra.
Les jumelles n'en avaient jamais douté.
La pâte à verre devra être additionnée du sang d'enfants innocents. Ces sacrifices plairont au gardien qui ne fera pas d'obstacle à notre sort.
Outros n'hésita pas un instant.
Je vais ordonner à Enoch d'enlever des enfants innocents puis de les égorger. Les patrouilles parties dans les collines ont sûrement repéré des villages où nous trouverons ce qu'il vous faut.
Ava et Rouva se collèrent au général et l'enlacèrent. Malgré sa peau à demi insensible, il sentit leurs courbes émouvantes et la fermeté de leurs seins.
Couchons-nous et partageons notre pouvoir avec toi, dirent-elles à l'unisson.
Alors qu'Outros retrouvait un optimisme qu'il croyait perdu à jamais et une clarté d'esprit inédite depuis son réveil, les deux magiciennes se déshabillèrent puis le débarrassèrent de sa cuirasse, de ses armes et de ses vêtements. Pendant qu'Ava finissait de le dévêtir, Rouva alla ajouter des herbes spéciales dans les braseros d'où monta aussitôt une fumée odorante. Ensemble, ils s'allongèrent sur le lit de camp et s'enlacèrent. Pas pour partager leur chaleur corporelle, depuis leur réveil elle était réduite au minimum, ni pour se donner du plaisir. Les jumelles, Outros le savait, brûlaient d'amour pour lui, mais ils ne partageaient pas ce sentiment. Non, ils allaient se donner de la force comme ils l'avaient si souvent fait durant leur campagne victorieuse à travers l'ancien monde. Outros serra contre lui les superbes magiciennes, ses mains suivant les contours de leur corps lisse et glacé. Pendant ce temps, du bout des doigts, elle dessinait des runes sur sa poitrine et le long de ses jambes. Très loin du moment présent, Outros n'avait qu'une idée en tête. Bientôt, même à travers le voile, il reverrait sa chère Majel.